Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h au sommaire aujourd'hui. Plus de 70 millions de déplacés dans le monde à cause de guerres ou de persécutions. Un seuil critique est atteint, notamment parce que les capacités de sauvetage en mer ont diminué. C'est ce que dit le commissariat aux réfugiés de l'ONU qui publie son rapport. Énormément d'enfants parmi ces millions de déplacés. L'ONU qui va peut-être ouvrir une enquête visant le prince héritier d'Arabie Mohamed Ben Salman. C'est l'enquête sur la liquidation du journaliste Jamal Khashoggi. Il existe des preuves de son implication, estime une experte des Nations Unies. Le scepticisme à l'égard des vaccins est particulièrement fort en France. Étude internationale, la méfiance donc la plus forte en France dans ce dossier. Un Français sur trois ne croit pas que les vaccins soient sûrs. Les détails tout à l'heure avec Daniel Messager. Va-t-on vers le retour de la bonne vieille consigne pour lutter contre la pollution en plastique? Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Le gouvernement dit plus aujourd'hui, zoom avec vous sur le recyclage des bouteilles plastiques.
Oui, plus de 12 milliards de bouteilles en plastique vendues chaque année en France. Faut-il les consigner pour éviter qu'elles ne se retrouvent dans la nature? L'idée est loin de faire l'unanimité.
L'invité du 13h est aujourd'hui le député Les Républicains du Vaucluse, Julien Aubert, un homme de droite sur une estrade de gauche ce soir pour défendre le référendum sur la privatisation d'Aéroports de Paris. Il nous dira pourquoi. Question aussi sur la réforme de l'assurance chômage, très critiquée par les syndicats, qu'en dit la droite. Et puis question sur cette dernière minute, dans l'affaire des écoutes en France, l'ex-président Nicolas Sarkozy sera bien jugé pour corruption. Les derniers recours sont rejetés. Où sont les trumpistes dans la politique française? Question alors que le président américain est officiellement candidat à sa réélection depuis cette nuit. Dans l'actualité encore, un film sur Tolkien au cinéma cette semaine, c'est le conseil de Jacqueline Pétrose. La météo, bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Que dit Météo France en ce mercredi?
Eh bien c'est encore assez calme en ce moment avec juste quelques averses, mais le temps va tourner à l'orage sur la moitié nord, en particulier entre la Bretagne, les Pays de la Loire et les Hauts-de-France. Les orages pourront être forts et accompagnés de grêle. Et puis les températures sont plutôt estivales, 24 à 32 degrés en général, mais 17 à 24 degrés sur le nord-ouest.
Merci Sébastien, on vous retrouve à 13h30. Avant cela, nous irons au concert d'Elton John. Au fait, pourquoi être toujours fan d'Elton?
Parce que ça fait 50 ans qu'il est en haut de l'affiche. Que c'est certainement le seul artiste capable de faire une performance comme il fait, c'est-à-dire de jouer du piano pendant 3 heures et de faire du rock'n'roll.
Voilà, extrait du concert Parole de Fan, ce sera tout à l'heure, le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Plus de 70 millions de personnes sont des déracinées dans le monde. Chiffre record avec tous les guillemets possibles. Cet extrait du dernier rapport du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Déracinés, c'est-à-dire déplacés, réfugiés, demandeurs d'asile. Bonjour Omar Waman.
Bonjour Bruno.
Les pays concernés, Colombie, Syrie, Afghanistan, Soudan du Sud, Birmanie, Somalie, il faut parler des Palestiniens aussi. Et au milieu de ces chiffres terribles, un plus encore. Un déraciné sur deux est un enfant.
Oui, et ce rapport pointe une augmentation importante du nombre d'enfants qui se déplacent seuls d'un pays à un autre. Cécile Pouilly, porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Nous avons comptabilisé au moins 138 000 enfants non accompagnés ou séparés de leur famille qui ont dû fuir la violence, les conflits, les persécutions par eux-mêmes. Ce sont des enfants qui voyagent seuls et qui sont donc confrontés à un grand risque en termes de sécurité. C'est vraiment une population qui nécessite beaucoup d'attention et de soutien.
L'Afrique reste le continent le plus touché par cet afflux d'enfants réfugiés, comme en Ouganda, pays enclavé de l'Afrique de l'Est, cerné par des pays en guerre.
C'est en Ouganda où on voit proportionnellement le plus grand nombre d'enfants non accompagnés, 62% d'enfants parmi les réfugiés. Et plus de 41 000 d'entre eux sont séparés ou non accompagnés, ça les rend extrêmement vulnérables. Il y en a même qui sont tout petits, hein. On en a plus de 2 000 en Ouganda qui ont moins de 5 ans.
Des enfants, Bruno, confrontés à de nombreux risques, violence, exploitation ou abus sexuels.
Et détails sur les régions et pays d'origine pour les réfugiés. Les Palestiniens sont évidemment les plus nombreux. Les autres réfugiés viennent de Syrie, d'Afghanistan, de Soudan du Sud, de Birmanie et de Somalie principalement. Pour les déplacer à l'intérieur de leur propre pays, les Colombiens et les Syriens sont les plus nombreux. Ce rapport est terrible et encore, il ne tient pas compte de l'ampleur de l'exode des Vénézuéliens. Merci Omar Waman. Après les politiques, les journalistes, les syndicats, voici que les scientifiques perdent à leur tour de leur influence. C'est moins flagrant que pour les autres, heureusement. Mais tout de même, une étude supplémentaire montre l'ampleur de la méfiance en France à l'égard des vaccins. Bonjour Daniel Messager.
Bonjour.
Étude internationale d'une organisation médicale britannique qui s'appelle Wellcome et la France est très très mal classée.
Grosse étude puisqu'elle porte sur 140 000 personnes dans 144 pays. Et vous avez raison de parler d'ampleur car la France est en tête, mais faut-il vraiment s'en glorifier? C'est le pays le plus sceptique par rapport aux vaccins. Une personne sur trois ne croit pas à leur sécurité. un Français sur 10 pense qu'il n'est pas important de faire vacciner les enfants. Et ce n'est pas le seul enseignement de cette étude. Sur la science en général, il y a aussi une défiance, avec par exemple la crainte de perte d'emploi à cause des sciences et des technologies. Alors ce sentiment de suspicion, le professeur Alain Fischer le rencontre. C'est un des grands scientifiques français spécialiste en immunologie et thérapie génique.
Lorsque nous sommes amenés à dire des choses qui ne plaisent pas à certains, on va nous accuser systématiquement d'avoir des conflits d'intérêts et de défendre des intérêts financiers de tel ou tel pour décrédibiliser la parole des experts. C'est une question fondamentale de participer à des débats pourvu qu'ils soient raisonnables et qu'on ne confonde pas une opinion avec une réflexion scientifique, par exemple. Il n'y a peut-être d'ailleurs pas assez d'experts auprès des politiques. Je ne suis pas en train de dire que les scientifiques doivent faire la politique, mais je pense que la place des experts dans le monde dirigeant, peut-être d'ailleurs aussi l'entreprise, c'est plutôt insuffisante en France. Et puis à l'école, évidemment, tout ce qui peut aider au développement d'une culture scientifique, il débute dès l'école. Il faudrait pouvoir généraliser ces démarches et qu'elles accompagnent toute la scolarité et tous les enfants apprennent ce que c'est qu'une démarche scientifique par eux-mêmes.
Et sur les vaccins, il faut quand même préciser que les mentalités sont peut-être en train de changer, car aujourd'hui en France, près de 90% des enfants qui ont eu un an l'an dernier sont vaccinés contre la rougeole.
La réforme des impôts locaux ne fera pas de perdants. Message et promesse du gouvernement aux élus locaux. Aujourd'hui, la suppression de la taxe d'habitation est un des nombreux sujets à avoir jeté un froid entre le gouvernement d'un côté, les maires et présidents de départements de l'autre. Évidemment, les contribuables se réjouissent de cette baisse d'impôts, pour la plupart l'année prochaine, pour tout le monde en 2023. Mais cette taxe alimente les caisses des mairies et départements. Cela représente 26 milliards d'euros de manque à gagner pour les communes en 2023. Après les Gilets jaunes, le gouvernement veut se rabibocher avec la France des élus locaux et présente donc des pistes pour compenser la baisse. Quelle piste, Faustine Calmel?
L'idée, c'est de verser l'intégralité de la taxe foncière aujourd'hui partagée avec les départements aux communes. Le gouvernement estime que les deux tiers d'entre elles vont y gagner. Elles toucheront un peu plus d'argent qu'avec la taxe d'habitation. Pour quelques centaines de villes, le montant sera strictement identique. Et pour les 10 000 restantes, la différence sera comblée par un effort de l'État qui promet 1 milliard d'euros en plus aux collectivités. Restait à trouver comment compenser l'argent perdu par les départements privés de la ressource de la taxe foncière. Eh bien, ils toucheront une part de la TVA, comme c'est déjà le cas pour les régions. Ce système de vase communicant devait éteindre les inquiétudes des élus locaux. C'est raté. L'Association des maires de France estime que oui, le manque à gagner sera bien comblé à l'euro près l'année prochaine, mais s'inquiète pour les suivantes. On n'a jamais vu un impôt local supprimé être compensé sur le long terme, regrette l'AMF qui cite en exemple la taxe professionnelle.
Allez, nous ouvrons le chapitre vert de ce journal avec d'abord cette question. Pour lutter contre la pollution plastique, faut-il en revenir à la bonne vieille consigne? Brune Poirson, la secrétaire d'État à la transition écologique, installe aujourd'hui un comité qui doit réfléchir à la question, les détails pratiques justement de ce retour de la consigne. Cela concernerait les canettes, les boîtes à sushis, les pots de peinture, les solvants, mais aussi les bouteilles en plastique. Alors zoomons sur ces bouteilles avec vous, Sandy Dauphin. On pensait que pour les recycler, il y avait une solution simple, le bac jaune. Mais vous nous le disiez en titre, elles font l'objet d'une bataille.
Oui, vous achetez une bouteille d'eau ou de soda en plastique. Vous la payez une vingtaine de centimes de plus que vous récupérez lorsque vous ramenez cette bouteille dans des automates placés dans tous les supermarchés, boulangeries et sandwicheries de France.
Ça, ce serait la consigne.
Voilà, ouais. C'est le scénario défendu par Citeo, l'éco-organisme en charge du recyclage des emballages ménagers en France. Cette entreprise est financée par les grands groupes comme Evian, Danone, Coca-Cola ou Pepsi. Et son argument, c'est de dire, bien écoutez, aujourd'hui on collecte 6 bouteilles en plastique sur 10. L'Europe nous dit il faut atteindre 90% de collecte dans 10 ans. La consigne est le seul moyen d'y parvenir.
Sauf que les collectivités locales et la Fédération des entreprises du recyclage disent non.
Oui, le système va concurrencer la collecte des bacs jaunes, disent-ils. Nous avons investi massivement dans des centres de tri. La consigne va miner tout le système. Derrière ce désaccord, il y a aussi un énorme enjeu financier. Les bouteilles plastiques sont fabriquées en PET clair. C'est l'un des rares déchets plastiques qui possède une valeur marchande. 300 euros la tonne, les collectivités locales disent. Si vous retirez avec la consigne les bouteilles plastiques des packs jaunes, vous nous laissez avec le seul plastique dont personne ne veut, les barquettes de carottes râpées et les emballages de biscuits.
En tout cas, quel que soit le secteur économique, les professionnels sont désormais obligés de tenir compte de l'impact environnemental de leur activité. La preuve, au salon aérien du Bourget. Ce qui en filtre pour le grand public habituellement, ce sont les contrats, les nouveaux modèles. Eh bien, cette année, la question de l'impact environnemental environnementale du transport aérien revient avec insistance. L'aviation, c'est 3% des émissions de CO2 mondiales. Et ces dernières années, les émissions, que ce soit de CO2 ou de dioxyde d'azote, ont continué d'augmenter. Et le nombre de vols étant appelé à se multiplier, on n'en est pas sorti. Alors que répondent les avionneurs au Salon du Bourget? Philippe Lefebvre, ils appellent d'abord à comparer avec avant-hier.
Oui, en 50 ans, les émissions de CO2 par les avions commerciaux ont diminué de 80% et cela continue avec une baisse d'1,5% en moyenne chaque année. Et si aujourd'hui les avions plus propres comme l'Airbus A321neo se vendent aussi bien, c'est sans doute en raison d'une prise de conscience des risques pour l'environnement, mais aussi parce qu'à performance égale, ces avions consomment beaucoup moins. Jean-Charles Perrineau est le PDG de la compagnie française La Compagnie.
30% de carburant en moins, c'est 10 tonnes de moins sur chaque vol entre Paris et New York pour nous. Donc c'est significatif à la fois en termes d'économie, en termes financiers, mais aussi c'est un avion qui a une empreinte carbone inférieure et donc ça, pour nous, c'est aussi quelque chose qui contribue à l'amélioration de cette diminution de l'empreinte carbone.
Par ailleurs, au Bourget, tous les constructeurs évoquent l'avion électrique ou des appareils ressemblant à nos voitures hybrides. Nicolas Orange, c'est le porte-parole du constructeur français d'AER.
Nous aurons 6 moteurs électriques et nous aurons également un moteur thermique. Donc le moteur électrique nous aidera à décoller sans bruit, et le moteur thermique permettra de recharger les batteries et donc de proposer un produit qui, normalement, si tout va bien, pourra voler à l'été 2022.
Mais un avion 100% électrique transportant plus de 100 passagers, ce n'est pas pour demain, en raison notamment du poids des batteries. Au Salon du Bourget, Philippe Lefebvre, France Inter.
L'actualité internationale, ces dernières heures, on parlait du rapport du HCR sur les réfugiés, mais c'est aussi le retour des casquettes rouges et du slogan « Make America Great Again ». Ça y est, c'est officiel, un an et demi avant l'échéance, Donald Trump est en campagne pour sa réélection. Meeting la nuit dernière devant 20 000 partisans dans la salle de basket d'Orlando, Floride.
We're going to keep on fighting for every man and woman and child all across this land.
Nous allons continuer à nous battre pour chaque homme, chaque femme et chaque enfant de ce pays. Avec toute notre énergie, notre cœur, avec notre sueur, on va continuer à rendre sa grandeur à l'Amérique.
Donald Trump la nuit dernière, alors nous en sommes à 2 ans et demi d'administration Trump en France. Son image est toujours globalement assez calamiteuse, mais à l'extrême droite, notamment Maxence Lambrec, Trump a ses partisans pour sa façon de faire de la politique et pour la dynamique qu'il insuffle.
Officiellement, le RN ne fera pas campagne pour Donald Trump, mais il va souhaiter sa réélection. Jérôme Rivière, député européen du RN.
Une élection de Trump serait un souffle pour l'ensemble des partis en Europe qui veulent mettre en avant la protection de leurs citoyens, la protection de leur marché national. Donc à ce titre-là, oui, une réélection de Trump serait une bonne chose.
Jérôme Rivière, c'est l'ambassadeur du RN aux États-Unis. Il connaît bien Steve Bannon et le Parti républicain. Il vient de rentrer de Washington, où des stratèges conservateurs s'intéressent de près au concept du localisme développé par le RN pendant les européennes. Ils veulent verdir leur discours en s'inspirant donc de la stratégie écolo et identitaire de Marine Le Pen. Mais au sein du RN, ses liens avec Trump en agacent certains. Son image est trop abîmée. En France, on ne peut plus en faire un modèle. Regrette un cadre du parti. Bien au contraire, répond Robert Ménard, le maire de Béziers.
Si on avait un taux de chômage réduit à ce qu'il est aux États-Unis, si on avait un taux de croissance qui flirte avec celui des États-Unis, si les salaires augmentaient comme ils augmentent aux États-Unis, mais écoutez, M. Macron serait autrement populaire.
Mais attention, ajoute-t-il, Trump n'est pas le meilleur allié de la France, et c'est bien le point faible de cette stratégie, vanter les mérites d'un homme qui, au fond, se moque des Français.
Et on en vient à la politique, les deux sujets de ce milieu de semaine, la réforme de l'assurance chômage et la campagne pour un référendum sur la privatisation d'aéroports de Paris. Pour parler de ce sujet et de quelques autres, l'invité du 13h est aujourd'hui le député Les Républicains du Vaucluse, Julien Aubert. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et d'abord, cette dernière minute, j'en parlais en titre, Nicolas Sarkozy qui sera jugé pour corruption dans l'affaire des écoutes. Tous les derniers recours rejetés. Qu'en dites-vous?
Écoutez, il n'y a pas de commentaire à faire. Il y a une procédure judiciaire, il faut qu'elle aille jusqu'à son terme.
Malgré ça, il a toujours sa place? Chez les Républicains, c'est toujours un homme qui peut jouer un rôle dans l'avenir des Républicains.
Nicolas Sarkozy aura toujours sa place dans le cœur des adhérents des Républicains. Mmh. Ça ne veut pas forcément dire qu'il doit jouer un rôle dans l'avenir, mais il y a un lien affectif qui s'est créé et qui, à mon avis, ne disparaîtra jamais.
L'assurance chômage, Julien Aubert, 3,4 milliards d'économies avec la réforme que défend le gouvernement. Dites-moi, la droite qui plaide régulièrement pour une gestion rigoureuse des deniers publics et qui pointe régulièrement le flou du gouvernement sur les mesures d'économie. Là, il y en a des économies clairement fléchées. Vous applaudissez ?
J'applaudis pas, mais en tout cas, je n'aborde pas avec une vision négative une proposition de réforme. J'ai un a priori positif. Après, j'ai quelques questions. Bon, d'abord, je ne pense pas qu'il faille faire la réforme de l'assurance chômage uniquement pour des raisons comptables. Je crois que le principal objectif, ça doit être quand même d'aider les gens à retrouver du travail et à lutter aussi peut-être contre une forme de déséquilibre entre activité et inactivité, c'est-à-dire qu'on rémunère mieux l'inactivité que l'activité. Ensuite, il y a trois grandes questions. La première, c'est la justice sociale. Je pense notamment au cadre, parce que je ne prends pas seulement le cas, si vous voulez, de l'assurance chômage, mais de manière générale, il y a un petit discours qui est de dire, vous, finalement, qui êtes dans la classe moyenne supérieure, eh bien, vous allez avoir moins de droits, par exemple, sur la famille. Et donc, on est en train d'inventer le cotiser plus pour gagner moins. Mmh. Et je dis attention, parce que c'est quelque part fragiliser le système de solidarité nationale. Mmh. Deuxièmement, le problème de concertation sociale, c'est quand même un échec que ce soit le gouvernement qui décide de cette réforme.
Et puis, il n'est pas seul responsable de ça.
Il n'est pas seulement responsable, mais enfin, il y a un problème à mon avis plus profond, et pour faire passer cette réforme, ce serait quand même bien à un moment donné que les corps intermédiaires y soient associés, ou en tout cas soient plus positifs. Et puis troisièmement, sur les contrats courts, je m'étonne, parce que pour moi le principal problème sont les intermittents du spectacle. J'ai l'impression qu'ils sont mis de côté. Attention à ce que on handicape pas certains secteurs de l'économie.
Alors on en vient à votre présence aux côtés de communistes, de figures de la France insoumise lors d'un rassemblement contre la privatisation d'Aéroports de Paris ce soir. Juste deux questions très politiques. Bruno Retailleau, pas candidat à la présence des présidences des Républicains. Est-ce que vous avez un candidat, Julien Aubert ? Est-ce que vous pourriez être candidat ?
Je pourrais l'être, j'ai dit d'ailleurs.
Vous ne l'êtes pas encore.
Non, mais je ne le suis pas. Mmh. Mais moi, si vous voulez, je ne pense pas que ce soit une question de personne. J'ai mis des idées sur la table. J'ai dit, on a trois points de clivage. Le sociétal, l'Europe, l'économie. Et il y a une question, c'est est-ce qu'on garde le parti unique ou pas ? Et est-ce qu'on continue à avoir le centre dans les Républicains alors que le centre est parti chez Emmanuel Macron ? Mmh. Si quelqu'un reprend ses questions en disant, je suis d'accord et je veux en parler, alors dans ce cas-là, pourquoi y aller ? Je ferai doublon. Voilà. Ensuite, je regrette parce que Bruno Retailleau est quelqu'un d'une très grande valeur, qui, à mon avis, on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais en tout cas, il avait envie de parler du fond. Et je ne voudrais pas qu'on ait une élection où on parle que de personnes et pas quand même des claques qu'on s'est prises depuis 2012.
Et vous vous positionnerez personnellement quand ? Parce que ça va aller vite maintenant.
Il faut pas aller trop vite. Vous savez, c'est une élection, c'est aussi quelque chose de collectif. Donc, je discute tous les jours avec les parlementaires. Certains m'encouragent à y aller, d'autres me disent n'y va pas. Je suis pas fermé, voilà.
Les municipales l'année prochaine, et Jean-Claude Gaudin chez nos confrères de France Bleu Provence ce matin, il annonce qu'il renonce à un nouveau mandat à la mairie de Marseille et il appelle à un rassemblement entre les Républicains et les Marcheurs. C'était ce matin, écoutez.
C'est le début, effectivement, de quelques dialogues qui pourront ici ou là exister. Et les élus marcheurs devraient, au contraire, dans ce que souhaite d'ailleurs le président de la République et le Premier ministre, rassembler. Il faut un rassemblement et les marcheurs apprendront à le faire.
Il a raison.
Moi, je ne pense pas parce que aujourd'hui, la droite doit expliquer en quoi elle est une troisième voie entre le Rassemblement national et la République en marche. Et vous ne pouvez pas définir quelque part une matrice nouvelle, une vision pour ce pays, si tantôt vous êtes attiré par fusionner avec ceux que vous combattez d'un côté ou de l'autre. Et je maintiens que la République en marche, ça n'est pas la droite, et que le Rassemblement national, ça n'est pas la droite, donc c'est valable des deux côtés. Ce qui n'empêche pas, dans une élection locale où on choisit une équipe, d'ouvrir. Ça, vous avez une tête de liste et vous prenez des individus. Mmh. Moi, quand je suis allé au municipal, j'avais des gens de gauche sur ma liste. Mais je les avais pas choisis parce qu'ils étaient de gauche. Je les avais choisis parce que c'était des gens bien, sincères, honnêtes et qui avaient envie de changer la ville.
Donc au niveau individuel, pourquoi pas, mais pas au niveau des formations politiques.
Non, mais puis vous savez, c'est pas. Je crois pas que ce soit une question d'étiquette, une élection municipale. Jean-Claude Gaudin est sans doute meilleur spécialiste que moi. Et je lui garde toute mon affection, sur les municipales, mais je ne fais pas la même opinion politique. Je crois que ça concourt à brouiller les pistes et à encourager le discours de tous ceux qui au Rassemblement National disent « Regardez, finalement, la droite, c'est du Macron light ».
La campagne pour qu'un référendum ait lieu sur la privatisation d'Aéroports de Paris, rassemblement public ce soir à Saint-Denis, organisé par le communiste Stéphane Peu. Sur l'estrade, il y aura le socialiste Boris Vallaud, il y aura des insoumis et Julien Aubert.
Alors, si je peux y aller, parce que j'ai pas le droit de parole, étant donné que c'est un orateur par groupe, et en même temps, on a le texte énergie climat où je suis orateur de mon groupe à l'Assemblée nationale, mais
si je peux, j'y vais.
Moi, ce qui me fait un peu doucement rire, c'est que quand Emmanuel Macron a dépassé le clivage droite-gauche par le centre et par le dépassement de la nation, tout le monde a trouvé ça génial. Par contre, nous, les opposants, on n'a pas le droit de parler aux autres. Si on se met à côté d'un communiste, d'un socialiste, on trahit. Donc, quand c'est Macron qui le fait, c'est génial. Quand c'est nous, par la nation et par l'intérêt national, c'est pas bien. Et deuxièmement, quand vous connaissez la procédure du RIP, expliquez-moi comment vous pouvez réunir une coalition de 285 députés.
Et plus de 4,5 millions d'électeurs doivent donner leur accord.
4 millions à la limite, il y en a à droite. Mais 285 députés, comment vous faites si vous parlez pas aux autres partis?
RIP pour référendum d'initiative partagée.
Je veux dire, honnêtement, être contre la marchandisation de quelque chose que vous estimez être un intérêt stratégique pour ce pays international, c'est pas une question de droite ou de gauche. C'est tout simplement une question de savoir si on doit tout privatiser et que, savoir si l'économie est une religion ou un pragmatisme.
Ça, c'est l'argument sur le fond. Effectivement, ça mérite, ce sujet-là mérite d'aller dans des meetings avec les socialistes, avec les communistes, mais, avec les insoumis.
Évidemment, moi, je suis pas du tout sectaire.
Vous plaidiez il y a deux minutes à propos de Marseille, notamment et des municipales, contre une certaine confusion politique. Là, oui. Éric Woerth dit, ça entretient la confusion politique.
Non, parce que moi je viens avec mon propre message, je ne dis pas que je veux fusionner avec eux, nous avons le même objectif. Et c'est vrai que ce n'est pas un sujet droite-gauche. Voilà, donc on va pas faire une liste ensemble pour le RIP. Mmh. Maintenant, je suis quand même inquiet quand je vois que le ministre de l'Intérieur lance un site qui bug parce qu'il est incapable d'avoir plus de 10 000 inscriptions par jour.
Quoi, vous croyez qu'il y a des manips?
En tout cas, je pense, si vous voulez, que c'est les pieds nickelés au pouvoir et qu'à un moment donné, quand vous avez un système CAPTCHA de protection à 8 digits et que vous êtes incapable, que n'importe quel programme est capable de récupérer les données, c'est scandaleux, surtout après la crise des Gilets jaunes, de vouloir empêcher ou de ne pas permettre à ce RIP d'exister.
Dernière question, Julien Aubert, on parlait de Donald Trump. Faites-vous partie de ceux qui disent il s'en est pas si mal sorti, il obtient des résultats économiques et dans sa façon de faire de la politique, il y a des choses à prendre?
Moi, je pense que M. Trump est quelqu'un qui n'est pas sincère. Déjà, c'est à l'inverse de mes valeurs. Je pense que c'est quelqu'un qui clive, alors qu'on doit rassembler quand on fait de la politique. Je pense que les résultats économiques ne sont pas le seul alpha et oméga d'un chef d'État. Il y a d'autres objectifs, et le bonheur de ses concitoyens devrait être un objectif supérieur au taux de croissance. Et donc, moi, je ne ferai pas la publicité de M. Trump. Après, je ne suis pas certain d'ailleurs en plus que ses résultats économiques soient liés à sa politique. Il a ensuite une manière de faire la politique internationale où il réaffirme des intérêts. Quelque part, il nous rend service parce qu'il oblige l'Europe aussi à s'interroger sur sa sécurité. Mais tout dépend en fait de l'alternative. On verra si les démocrates trouvent quelqu'un de crédible et qui ne soit pas non plus dans l'idéologie.
Merci Julien Aubert d'être venu dans les studios de France Inter répondre à nos questions. On en revient à l'actualité internationale et le climat un peu plus tendu chaque jour au Proche-Orient. D'abord cette déclaration de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. Il y a encore du temps pour parvenir à une désescalade sur l'accord nucléaire iranien, dit le ministre, mais peu de temps, sous-entendu. Il faut vraiment trouver une solution ou avancer et discuter dans ce dossier. Et puis bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour Bruno.
À propos de l'affaire Khashoggi, ce journaliste liquidé en octobre dernier, l'ONU qui s'approche d'une enquête qui pourrait concerner notamment le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman. Des preuves suffisantes existent pour ouvrir une enquête sur de très hauts responsables saoudiens, notamment lui, dit une experte de l'ONU.
Oui, vous savez, depuis longtemps la question n'est plus de savoir si l'Arabie Saoudite est impliqué dans la mort du journaliste. On sait depuis longtemps que les autorités du pays ont organisé l'assassinat. D'ailleurs, les services de sécurité l'ont reconnu, des arrestations s'en sont suivies, un procès à huis clos a même eu lieu pour ceux qui ont tué l'homme. Au total, une petite vingtaine de personnes. Non, la question qui se posait était de savoir si MBS, Mohamed Ben Salman, était directement impliqué. En clair, si c'est lui qui a donné l'ordre. Aujourd'hui, selon la mission de l'ONU, il n'y a plus beaucoup de doutes. Les termes utilisés sont sans ambiguïté. La rapporteuse Agnès Callamard parle d'exécution délibérée, préméditée et surtout, il existe des preuves de la responsabilité du prince héritier dans ces assassinat. Elle demande d'ailleurs que des sanctions soient prises, notamment des sanctions contre ses biens personnels à l'étranger. Autant dire que les masques vont tomber, puisque MBS a toujours eu le soutien des États-Unis. Donald Trump avait expliqué, après avoir rencontré le prince saoudien, qu'il croyait en son innocence au bénéfice du doute. Les révélations de ce jour risquent de compliquer les choses, alors que le Moyen-Orient vit une période de tension extrême. L'allié d'hier pourra-t-il rester celui de demain, quand celui-ci a du sang sur les mains? Et les conséquences ne seront pas qu'américaines. La France aussi. Certains s'étaient étonnés que la France continue de livrer des armes à l'Arabie Saoudite, pays peu fréquentable. Or, avec cette enquête, les interrogations vont se faire plus fortes sur cet allié finalement bien embarrassant.
Vous parliez de tensions au Moyen-Orient. L'enquête après l'attaque contre le tanker japonais en mer d'Oman la semaine dernière, l'armée américaine qui accuse l'Iran dit avoir récupéré des empreintes. C'est ce qu'on apprend à l'instant via l'agence France Presse.
France Inter, le journal de 13h.
Bruno Duvy.
Et encore une dernière minute dans le domaine du sport. En rugby, Mathieu Bastaro, qui n'est pas retenu pour le mondial, annonce à l'instant sa retraite internationale. Et bonjour Jacqueline Pétrose.
Bonjour Bruno.
Le cinéma, votre conseil cette semaine est ce film consacré à Tolkien, l'un de vos héros, c'est bien ça?
J'avoue, oui.
La jeunesse de l'auteur du Seigneur des Anneaux, la jeunesse et la genèse de son œuvre dans ce film.
Oui, absolument. C'est ce que nous raconte Dom Kukowski, parce que justement, il veut nous montrer comment s'est formé cet univers assez extraordinaire qui a quand même, on peut le dire, bouleversé.
Des millions de personnes.
Des millions de personnes. Ouais. Alors, c'est par les images que se forme l'imaginaire du jeune Tolkien, grâce aux histoires en fait que leur raconte la maman, qui leur parle de dragons déjà, de bêtes fantastiques. Elle raconte ça à ses enfants le soir, aux deux petits garçons, donc John Ronwald et Hilary. C'est une jeunesse assez triste en fait. C'est une enfance malmenée parce que il perd son papa à 4 ans et à 12 ans il perd sa maman. Donc il est orphelin avec son petit frère Hilary. Il se retrouve dans une pension de famille pour orphelins. Il va donc prendre un peu la vie aussi de son frère en charge. Il est très jeune et il va se construire encore plus son univers par des calepins, par des dessins déjà fantastiques. Et c'est là effectivement que un monde se structure parfaitement.
Depuis l'enfance, je suis fasciné par les langues. J'en ai inventé une. J'ai créé des histoires.
Tolkien !
C'est une histoire qui parle de voyage pour se mettre à l'épreuve. D'aventure. D'une magie qui dépasse tout ce qu'on a pu ressentir jusqu'à présent. De ce que signifie aimer. Et être aimé.
Alors, vous l'avez dit, la genèse de l'œuvre de Tolkien est là. Boursier, il se bat pour intégrer Oxford et grâce à son génie des langues anciennes, il va y arriver. Avec 3 autres étudiants, il crée sa propre communauté, déjà, pour transformer le monde. Mais la guerre, malheureusement, de 14 va faucher 2 d'entre eux et Tolkien sera marqué à jamais par l'effroyable carnage des tranchées. Ça va aussi entrer dans son imaginaire, d'ailleurs. On voit très bien dans le film comment se construit, effectivement, aussi ce monde un peu fantastique. Puis sa vie, en fait, sera extrêmement sage quand il va rentrer. Marié, père de 4 enfants, il sera quand même le plus jeune professeur jamais embauché à Oxford et s'est encouragé par sa femme Edith qui a toujours cru en lui et pour ses enfants qu'il écrit enfin en 1937 Bilbo le Hobbit. Alors là s'arrête le film, très classique hein, de Dom Kukowski. On aurait aimé un tout petit peu plus de folie, mais finalement il reflète cette vie tranquille de Tolkien, alors que son univers a bouleversé le monde de l'édition. Et pas seulement.
Et le titre du film est assez simple, c'est Tolkien. Lui aussi a droit à son biopic en ce moment au cinéma. Elton John, le film s'appelle Rocketman. Sur les écrans, il était présenté à Cannes. Et c'est un moment Elton John que nous traversons, puisqu'il est en tournée en France, hier à Lille, au stade Pierre Mauroy. Reportage Yann Bertrand.
Même en fin de course, même une dernière fois, la conclusion s'impose.
Fantastique, c'est une bombe. Ah ouais, il est extraordinaire.
Gérard a vu Elton John pour la première fois.
On a vu 2 fois le Faubourg, quand il y a eu l'éruption du volcan islandais, là, machin, Vyofuul, là, et puis la grippe qu'il a faite 2 mois après.
Et l'artiste de 72 ans a tout donné, encore 2h30 de show entre pop, rock et balade. Le corps fatigué, la voix qui ne monte plus aussi haut, mais peu importe pour Marie et Olivier.
Parce que ça fait 50 ans qu'il est en haut de l'affiche, que c'est certainement le seul artiste capable de faire une performance comme il fait, c'est-à-dire de jouer du piano pendant 3 heures et de faire du rock'n'roll.
J'ai jamais lâché, j'ai toujours apprécié.
Hier soir, c'était la 100e date de cette interminable tournée d'adieu. Comme pour s'en convaincre, Elton John le répète sur scène, il est temps d'entamer un nouveau chapitre dans ma vie. Son public, fidèle et satisfait, profite de chaque instant.
C'est une légende vivante.
Et à la fin, l'anglais s'en va sur la pointe des pieds, pour une fois avalé par le décor. Et on en redemande déjà.
Eh bien, pour ceux qui en veulent, c'est demain à Paris, puis le 22 juin à Bordeaux et le 23 à Nîmes. Elton John qui recevra la Légion d'honneur vendredi des mains d'Emmanuel Macron.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Sébastien Léas.
Les conditions sont particulièrement instables cet après-midi entre la Bretagne, les Pays de la Loire, les Hauts-de-France et les Ardennes avec des développements d'orages. Les plages du Nord-Ouest sont un peu épargnées avec juste de rares averses cet après-midi, mais dans l'intérieur des terres, les orages peuvent être localement forts et de la grêle est également possible. Des averses localement orageuses sont aussi à craindre entre la Lorraine, le Centre-Val de Loire et l'Auvergne. Et un nouvel axe orageux va aussi se mettre en place avant la fin de journée depuis les Pyrénées vers le Midi Toulousain, puis se dirigeant vers le sud du Massif Central en cours de soirée et la nuit prochaine. Quelques orages sont aussi attendus sur les Alpes du Nord, mais sur le reste du pays, de belles éclaircies et des passages nuageux se partagent le ciel. C'est autour de la Méditerranée que le soleil est le plus radieux. Cet après-midi, les températures affichent 17 à 24 degrés sur le quart nord-ouest et jusqu'à 32 degrés ailleurs.